Mercredi 11 novembre 2020, les programmes du studio Kalangu continuent à travers nos 45 radios partenaires. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 18h. À la présentation, je suis Rukaitu Abdraman. Depuis le 9 novembre 2020, les listes des candidats aux élections municipales sont affichées dans les 8 gouvernorats du Niger. Les partis politiques dont les listes sont rejetées en 24 heures pour corriger conformément aux dispositions du code électoral. Pour outiller les représentants des partis politiques sur l'organisation des élections apaisées au Niger, le Conseil national du dialogue politique conduit une mission dans les différentes régions du pays. Après la fixation des tarifs du prix du gaz domestique par les autorités compétentes du Niger, les revendeurs sont mécontents et cessent toute activité. De la partie magazine de cette édition, la directrice du commerce intérieur explique les sanctions encourues. Des hommes armés non identifiés sur des motos se sont introduits hier vers 17h dans le village de Chinagodar, village situé à 10 km de la frontière malienne région de Tillabéri. Les assaillants ont tué l'imam du village et blessé une quinzaine de personnes, rapporte une source locale jointe au téléphone par le studio Kalangu ce matin. La même source indique que le refus de quitter le village par les populations serait la cause de l'assassinat de l'imam. Ces hommes armés ont donné un délai de 3 semaines à la population pour déguerpir le village, d'après la même source. La liste des candidats aux élections municipales est affichée dans les 8 régions du Niger depuis le 9 novembre 2020. À Niamey, la quasi-totalité des listes des 55 partis politiques est retenue. Cependant, l'on constate des rejets de listes des partis politiques dans certains arrondissements communaux de Niamey. Conformément aux dispositions du code pénal, les partis dont les listes sont rejetées ont 24 heures pour corriger. Le secrétaire général du gouvernorat de Niamey, Bourema Zourkaleni, au micro de Habibou Garba.
Le 9 novembre, on a affiché toutes les listes en provenance du tribunal de grande instance de Niamey. Le constat, c'est qu'il y a eu beaucoup de dossiers acceptés, mais il y a eu aussi quelques dossiers rejetés. Donc, sur les 55 partis politiques, globalement, presque tous les partis politiques ont eu quelques rejets. Parce que vous savez, c'est par arrondissement communal. Donc, on peut accepter dans 2 ou 3 arrondissements communaux. Et on te rejette dans 1 ou 2 arrondissements communaux. Ça dépend. Et comme vous l'avez constaté, presque les 90% des rejets, c'est dû au casier judiciaire non daté. Mais les gens ont eu 24 heures à partir du 10 pour faire un recours auprès du tribunal de grande instance de Niamey. Et je crois que beaucoup ont fait ce recours-là. On attend maintenant le retour de ces recours-là.
Donc, la journée d'hier, c'était consacré au recours.
Par exemple, aujourd'hui, on ne peut plus faire de recours. C'est fini. Donc, il n'y a que les 24 heures. C'est déjà passé hier à 16 heures.
À la date du 10 novembre, toutes les cartes d'électeurs de la région d'Agadez sont disponibles. La région totalise 256 387 électeurs avec 1007 bureaux de vote. Le président de la commission électorale régionale d'Agadez, Maître Omar Kondo, indique que les préparatifs vont bon train. Il est au micro de Moussa Maman.
À ce jour, toutes les cartes de la région de l'Agadez sont disponibles. Il y a des communes qui ont réceptionné ces cartes et ils ont même commencé à prendre attache avec les comités locaux de distribution pour procéder effectivement à la mise en place de ces cartes dans les différents bureaux de vote. Nous avons dans la région d'Agadez 256 387 électeurs. Nous avons 1007 bureaux de vote. La commune de Tchiro, qui est la commune qui a le plus grand nombre de bureaux de vote, nous avons 57 362 le nombre d'électeurs. Donc c'est pour vous dire, à ce jour, toutes les dispositions ont été prises, étant donné que les différents présidents ont prêté serment et qui sont sur place, pour que effectivement, dès la décharge de ces cartes de l'électeur, ils prennent attache avec le comité local pour mettre ces cartes à la disposition des électeurs à travers les différents points de retrait de cartes qui sont les bureaux de vote.
Le comité communal de Birning Kodni, chargé de la distribution des cartes d'électeurs pour les élections à venir au Niger, a débuté hier la distribution des cartes dans les quartiers et villages environnants de la commune. Par exemple, 4 933 cartes seront distribuées dans le quartier Mouadata de Kodni-Ville, selon le chef de quartier Moussa Ladan au micro d'Asmana Moussa Arzika.
Aujourd'hui, nous allons commencer la distribution des cartes d'électeurs pour les élections prochaines. Sur la liste, nous avons à peu près 4 933 personnes qui devraient retirer leur carte d'électeur ici. Cette distribution des cartes d'électeurs devrait se passer en principe en présence des représentants de tous les partis politiques. Mais dès que nous enregistrons la présence d'un ou trois représentants de ces partis, nous pouvons commencer, puisque le communiqué est passé depuis avant-hier. Pour les cas de ceux qui ont perdu leur récépissé, nous allons demander la conduite à tenir auprès de nos supérieurs hiérarchiques. Normalement, il existe d'autres conditions pour le retrait des cartes, mais nous n'avons reçu aucune notification par rapport à cela. Ce qui nous a été dit, c'est que quand la personne présente son récépissé normalement, elle peut retirer sa carte d'électeur.
Le secrétariat permanent du Conseil national du dialogue politique, CNDP, a récemment conduit une mission de travail dans les régions de Maradi et de Zander. Cette mission, qui se poursuivra dans les autres régions du pays, vise à outiller les représentants des partis politiques tous bords confondus sur l'organisation des élections apaisées au Niger. Yahya Garba, secrétaire permanent du CNDP, interrogé par Mokhtar Hamadou.
Nous avons eu la chance de rassembler tous les partis politiques, de toutes tendances confondues, la majorité, l'opposition et les non-affiliés. Au niveau de toutes les étapes, ces trois groupes ont répondu. Avec ces groupes, on a parlé de comment créer les conditions de la tenue d'élections dans la paix. Alors, pour le faire, on s'est surtout appuyé sur le code électoral, enfin, tous les textes qui encadrent les élections. On a beaucoup parlé des textes qui encadrent les élections avec les partis politiques pour leur expliquer comment un processus électoral est géré. Tout est prévu dans la loi. Et il faut que les uns et les autres respectent la loi. Voilà comment on gère le processus électoral. Voilà comment on gère la période électorale. Et voilà comment on gère la période post-électorale. Alors, pendant la période de campagne électorale, le code électoral dit comment les partis politiques ou les candidats doivent se comporter. Comment on doit faire une campagne électorale? Quels sont les messages qu'on doit prononcer en période électorale? Où est-ce qu'il faut faire les affiches? Les militants eux-mêmes, comment ils doivent se comporter pendant cette période de campagne électorale?
La gestion du pluralisme en période électorale, objet d'une formation des membres du Conseil supérieur de la communication ce matin à Niamey. L'objectif recherché à travers cette formation de 2 jours est de contribuer à l'organisation d'élections libres, honnêtes et transparentes dans un climat social et politique apaisé. Cet atelier vise aussi à outiller les membres et les agents administratifs et techniques du CSC en gestion du pluralisme en période électorale et à contribuer à leur professionnalisation. Le président du CSC, Dr Sani Kabir.
Le choix du thème, la gestion du pluralisme en période électorale, se justifie amplement par le contexte électoral dans lequel fait face notre pays. En tant qu'autorité de régulation des médias, nous avons la lourde responsabilité d'assurer l'accès égal et ou équitable des candidats, partis politiques ou groupements de partis politiques aux médias publics et d'assurer le pluralisme et l'équilibre dans le traitement de l'information sur les médias privés au cours des élections municipales et régionales, législatives et présidentielles. Il s'agira aussi pour le CSC de veiller à la pluralité d'opinion de toutes les forces politiques en compétition pour la conquête du pouvoir. C'est face à tous ces défis que l'instance de régulation a prévu dans son programme électoral le renforcement des capacités de ses membres en matière de gestion du pluralisme en période électorale à travers l'organisation du présent séminaire. Notre mission de veille ne saurait être bien accomplie si les membres du CSC ne disposent pas de compétences techniques pour gérer conséquemment le pluralisme durant une période aussi sensible que celle des élections.
En début de l'année 2020, le groupe nucléaire français Orano a annoncé la fermeture de la compagnie minière Dakuta Kominak, une de ses filiales qui exploite l'uranium au nord Niger, pour le 31 mars 2021. Le 4 mars 2020, la Kominak a présenté son avant-projet de plan de fermeture de la Kominak devant les couches socio-professionnelles. Lors de cette rencontre, la société civile d'Arlit a exprimé les préoccupations de la population et le souhait de leur prise en compte, ce qui n'a pas été fait selon le secrétaire général de la coordination de la société civile d'Arlit, Ramara Ella Toufette, joint au téléphone par Gung Maman Dantani.
Aujourd'hui, nous nous rendons compte que sont en train d'aller vers la fermeture, ils ont même commencé, sans consulter personne, sans prendre l'avis de personne. C'est pour ça qu'on a écrit la lettre à la direction de Comunac et a attiré son attention sur ce comportement-là qui n'est pas de nature à prendre en compte les préoccupations de population. Depuis le début, nous avons insisté pour que le démantèlement des installations de Comunac se fasse par les entrepreneurs locaux. Mais on constate que Comunac est en train de préparer ça pour les étrangers, les travailleurs. Les travailleurs, ils ont scindé en deux groupes. Les travailleurs qui ont des contrats directs avec eux, ils ont négocié une prime de fermeture qui se situe aux alentours de 20 millions, 50 millions pour certains. Pour les premiers, on a environ 600. Pour la deuxième catégorie de travailleurs qui sont les sous-traitants, qui travaillent toujours dans l'usine de terminal, qui ont servi à la production de l'uranium pendant toute cette période-là, ils n'auront même pas un copain. Et maintenant, au moment où on parle des mesures sociales, comme on a été incapable de prendre des mesures sociales pour des travailleurs qui sont au nombre de 800 et qui vont partir sans rien.
Le district sanitaire de Dakoro vient de bénéficier d'un appui en matériel composé de plusieurs kits et d'une importante quantité de produits pharmaceutiques d'une valeur de 40 millions de francs CFA, un don d'une ressortissante du département. Selon Inoussa Gonda, médecin-chef du district sanitaire, ce don est venu à point nommé surtout en cette période de pic de fréquentation du district sanitaire. Il est au micro de Adamu Umaru.
Dakoro fait partie du gros district du Niger avec une population de 876 000 habitants. Du coup, le nombre de fréquentations est très élevé et le taux d'occupation des lits est très élevé également. Le don est d'une valeur de 40 millions de francs CFA et constitué de 12 lits, 12 matelas d'hospitalisation, 5 lits de bloc. Et les lits utilisés au niveau de la salle d'hospitalisation du bloc pour la récupération des malades au nombre de 7.
Hey Issa, cette histoire de Covid-19 me rend malade. J'ai peur, je me sens mal tout le temps et sans te mentir, j'ai peur de tout le monde. Je ne fais que lire les infos sur cette maladie sur les réseaux sociaux.
C'est normal d'avoir peur. Depuis le début de cette pandémie, je t'ai souvent répété de faire attention à tout ce que tu lis sur les réseaux sociaux. Ce sont des fausses informations pour la plupart.
Mais que dois-je faire? Où aller alors pour me tenir informé?
Informe-toi sur le site officiel de l'Organisation mondiale pour la santé et les plateformes d'information des autorités de santé du Niger. La connaissance des faits peut t'aider à réduire la peur.
Cette fois-ci, je tâcherai de suivre tes conseils. Je me rends compte qu'il y a tellement d'informations et de fausses rumeurs qu'il faudrait qu'on lutte contre la désinformation. En effet, à cause de la peur, je dors moins et je suis tout le temps fatiguée.
Une dernière chose. Pense à tout ce que tu as vécu de positif dans la journée. Et prends la vie du bon côté. Focalise toute ton énergie à sensibiliser les gens sur les mesures préventives à respecter. Rappelle aux gens que la maladie existe toujours et que l'assouplissement de certaines mesures prises par l'État ne doit pas rimer avec le lâchement des gestes barrières.
D'accord, merci Issa.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
Et puis la partie magazine de cette édition, en octobre dernier, une rencontre s'est tenue entre l'autorité de régulation du secteur de l'énergie, le ministère du Commerce, les distributeurs et les représentants des revendeurs détaillants du gaz. Des tarifs officiels du prix du gaz domestique ont été fixés. Cette fixation de prix n'a pas été appréciée par les revendeurs, ce qui explique la cessation de leur activité, créant ainsi une pénurie de gaz au niveau des points de vente. Madame Issoufou Zainabou Manzo, directrice du commerce intérieur et de la lutte contre la vie chère au ministère du Commerce, explique les sanctions encourues. Elle est au micro d'Adama Dawaki.
Je tiens à vous préciser qu'il n'y a pas de pénurie de gaz. Actuellement, la production de Soraz est suffisante pour approvisionner le pays. Certes, il y a un problème au niveau de la chaîne de distribution. Normalement, les marketeurs, ils doivent approvisionner les points de vente. Les détaillants. Mais dans la pratique, les détaillants n'attendent pas que les marketeurs les approvisionnent au niveau des dépôts. Ils préfèrent eux-mêmes prendre un véhicule pour aller chercher le produit. Et la charge là, pour eux, ils incorporent ça dans le prix. Ils ne respectent pas le prix. Normalement, un prix fixé, on ne doit pas augmenter. Le détaillant, il doit s'organiser pour avoir le produit à son niveau. Les charges là, il ne doit pas répercuter ça sur le prix.
L'État a fixé le prix du gaz, la bouteille de 12 kg à 3750 et celle de 6 kg à 1800. En cas de non-respect de ces prix-là, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues?
En cas de non-respect des prix, il y a des sanctions. Pour les sociétés distributrices, quand elles ne respectent pas le prix, il y a notre loi sur la protection des consommateurs. La loi numéro 2019-50 du 30 octobre 2019, pour tout manquement au niveau des sociétés distributrices, la sanction est de 200 000 à 100 millions de francs. Maintenant, pour les détaillants, c'est au minimum 100 fois et 1000 fois au maximum le bénéfice illicite réalisé. Un exemple, on prend la petite bouteille de 6 kilos, elle se vend à 1800. Par exemple, si le détaillant vend à 2000, donc pour le sanctionner, on prend la différence là. Les 200 francs, on multiplie au minimum 100 fois et au maximum 1000 fois. Ça sera l'amende qu'il doit payer pour cette infraction. En cas de récidive, on double l'amende. S'il récidive encore là, il y a des privations de liberté. Maximum un mois.
Fin de cette édition d'information, je vous laisse en compagnie de Michel Desjive pour le forum du studio Kalangou sur la situation des écoles dans les zones sous état d'urgence au Niger.